Frédéric Soulier, La lampe de Saint-Just. Il n'y a pas un siècle que dans l'église de Saint-Just de Narbonne, au milieu de la chapelle qui se trouve à droite du tombeau de Philippe le Hardi, brûlait nuit et jour une magnifique lampe d'argent. Cette lampe était constamment alimentée d'huile odorante et qui devait être de pure olive. Le soin de cette lampe n'était pas confié aux mains grossières des bedeaux et de leurs valets. Un jeune abbé était ordinairement commis aux soins de sa propreté et de son éclat. Cette lampe magnifique fut volée vers l'an 1734 et fut remplacée par un cierge qu'on devait également entretenir allumé sans interruption. Mais le cierge n'excita pas l'admiration des fidèles comme faisait la lampe précieuse. Et il disparut complètement vers l'an 1750. Il existe cependant encore quelques vieillards qui se rappellent l'avoir vu et qui m'en ont parlé. Voici ce que j'ai pu découvrir de plus certain sur l'origine et la fondation de cette lampe. Le 12 février 1347, vers minuit, un jeune chevalier de 19 ans à peine, suivi de 4 glaives ou hommes d'armes à cheval, s'arrêta devant la porte de Luiano Marecchi, italien lombard, commerçant établi dans la ville de Narbonne. Comme la porte ne s'ouvrit pas dès le premier appel, les hommes d'armes se mirent en devoir de la briser. Mais aussitôt la clé tourna dans la serrure et le chevalier et ses hommes entrèrent dans une salle pauvrement éclairée. Celui qui leur avait ouvert était un petit vieillard d'un aspect assez commun, ayant, comme tous ceux de sa profession, l'œil alerte et inquiet. Il semblait vouloir regarder à la fois tous les visages et toutes les mains pour pénétrer les uns et surveiller les autres. Au moment où les glaives entrèrent par la porte de la rue, une jeune fille, à demi vêtue, s'élança de la porte opposée et courant vers le chevalier, elle se jeta à son cou avec un cri de joie et en disant « Oh, c'est donc toi, mon Joès. Oh, je t'attendais, j'ai reconnu de loin le pas de ton cheval et celui de tes mules. » Elle avait à peine dit ces mots qu'elle se recula avec effroi, car l'acier poli de la cuirasse du chevalier avait glacé sa jeune et tiède poitrine et meurtri sa peau blanche et délicate. Elle considéra l'étranger et se laissa tomber sur un siège étroit de cuir noir, en disant avec stupéfaction « Ah, mais ce n'est pas Joès !»« Non, répondit le chevalier, je ne suis pas Joès de Cordoue, le beau marchand de laine pourpre, et je n'aperçois point de magnifique présent à ma fiancée, Diana Marecchi. Non, je suis Jean de l'île Jourdain, et je viens exécuter les ordres du roi de France. » « C'est bien, reprit le vieux marchand. Entrez dans votre chambre, Diana. Je suffirai, je pense, à faire les honneurs de notre maison au sire de l'île Jourdain. » « C'est inutile, reprit celui-ci, car à partir de ce moment, ni toi ni aucun des tiens n'avez plus ni chambre ni maison. Toutes vos personnes sont saisies et tous vos biens sont confisqués. » « Mais tu délires !» s'écria Marecchi en portant sa lampe au visage de Jean. « Ou plutôt tu n'es qu'un enfant qui joue à un mauvais jeu. Prends garde, nous sommes sous la protection des consuls de la ville et leurs sergents d'armes ont puni plus d'un chevalier barbaret d'avoir méconnu leur sceau. Le voici au pied de la permission qui, moyennant 10 écus d'or, m'est concédé de vendre et d'acheter toutes sortes d'objets à mon plaisir. Alors retire-toi donc, si tu veux que j'appelle les bourgeois et le fasse en mauvais parti. » « Sus, mes fils, dit le jeune homme à ses soldats, Faites comprendre à ce Lombard qu'il plaît au roi Philippe de s'emparer de tous ses biens pour s'indemniser des aides que lui ont refusées les États de la Languedoc. » Les soldats obéirent, garrottèrent le vieillard. Ils ne pouvaient s'imaginer que ce qui se passa fût une réalité, tant le secret de cette mesure avait été gardé, et tant elle arrivait foudroyante et imprévue. Diana, aussi mobile que son père, le corps à peine couvert d'une légère toile de lin, ne sentait ni le vent piquant qui collait son vêtement sur ses formes pures et sveltes, ni le froid des dalles qui glaçait ses pieds. Elle ne pensait pas qu'elle était exposée presque nue au regard d'un étranger. Elle regardait Jean d'un œil fixe et presque insensé, et pendant ce temps, son père s'écriait avec désespoir : « Oh, miséricorde divine, mais qu'allons-nous devenir ?»« Ben, le voici, répondit le chevalier. Toi, comme chef de la famille, tu seras enfermé, avec tous les Lombards du pays, dans un cachot bien obscur, où tu pourriras jusqu'à ce qu'il plaise à monseigneur le roi de t'en faire sortir. » « Mais ma maison, dit le vieillard, que deviendra ma maison? Mes trésors, mes marchandises, privés de mes soins, mais que deviendront-ils ?»« Ta maison, repartit le chevalier, mais nous allons en prendre les clés. Nous la fermerons et je te réponds que les commissaires de roi ne laisseront rien perdre de ce qui s'y trouve. »« Juste ciel ! S'écria le vieillard, pour qui le malheur se succédait si rapidement qu'il n'avait pas le temps d'en mesurer l'horreur. « Et ma fille, mon enfant ?»« Mais ta fille sera chassée de la ville avec les autres. »« Chassée ?» répéta le vieillard en se tordant dans ses liens. « Oui, chassée à l'instant même, reprit Jean sans s'émouvoir. » Diana, arrachée à son immobilité par cette terrible parole, se leva soudainement et, prenant le chevalier par le bras avec un mouvement convulsif, en le regardant bien en face, elle lui dit « Et où veux-tu donc que je me trouve, si tu me chasses d'ici ?» Jean de l'Isle-Jourdain ne put s'empêcher de regarder Diana avec une sorte d'intérêt. En effet, elle était belle de toute la beauté du sang italien. Ses cheveux noirs ruisselaient sur ses épaules. Sa poitrine haletait et ses yeux respiraient une superbe résolution. « Ma foi, je la trouverai où il pourra, » dit un des hommes d'armes. « Mais n'oubliez pas, Sire Jean, que nous avons 13 expéditions pareilles à celle-ci à faire pour cette nuit, que nous n'en finirons pas si nous arrêtons aux larmes de tous les Lombards que nous avons à chasser. »« Mais tu as raison, » dit le chevalier pensif. « Allons, jeune fille, apprêtez-vous. On va vous conduire à la porte de la ville. »« Mais par la nuit et le froid, » dit Lubiano, « c'est tuer cet enfant. » « Miséricorde pour elle, miséricorde, monseigneur, ne la chassez pas de la ville. »« Oh, ne me chasse pas, » s'écria Diana à genoux, « laisse-moi cette nuit dans Narbonne. Je la passerai sur la pierre de l'autre seuil. Muette et couchée comme une morte, je ne dirai rien. Sur le salut de mon âme, j'attendrai Joès, voilà tout. Je l'attendrai toute la nuit. » Et s'il n'est pas venu au jour, comme je serai sans doute tout à fait morte de douleur et de froid, l'on ne pourra vous accuser, en voyant mon cadavre, de ne pas avoir rempli votre devoir et d'avoir eu pitié de moi. » Jean était prêt à s'attendrir. Tout à coup, un bruit de chevaux se fit entendre. Diana s'élança vers la porte, mais la lueur des torches la fit rentrer. Et la voix insolente du gallois de la Baume jeta de la rue ses paroles au jeune chevalier. « On voit bien que nous sommes au quartier du Sire de l'Isle-Jourdain. Rien ne le presse d'obéir, et il suit l'exemple de son père dans l'exécution des ordres du roi. Que Dieu prenne les traîtres en pitié. Et il repartit au trot de ses chevaux. Jean comprit que le Gallois de la Baume, qui avait dénoncé son père pour lui ravir sa lieutenance générale du comté de Narbonne, ne manquerait pas d'ajouter cette accusation à toutes celles qu'il avait inventées. Il détourna donc ses regards de la jeune fille et cria à ses hommes d'armes d'en finir. Diana, s'attachant à lui, poussait de vifs sanglots et lui demandait à genoux de la tuer et de ne pas la chasser ainsi. Mais il la repoussa rudement. Elle tomba presque évanouie sur le sol. Les soldats l'emportèrent hors de la maison, ainsi que le vieux Lubiano. Adieu, ma fille, adieu! Cria le vieillard. Devais-tu mourir avant moi? À ce mot, la jeune fille se releva et, mesurant Jean d'un œil de mépris, répondit à son père d'un ton calme et assuré. Mon père, je ne veux plus mourir. Jean ne comprit pas le sens de ces paroles, et le vieux marchand n'y vit qu'une vaine menace. On les sépara. À 15 mois de ce jour, Jean de l'Isle Jourdain était assis sur un coussin au pied de la belle Rosalinde de la Baume. Elle écoutait avec amour les récits qu'il lui faisait de ses premières courses aventureuses. Et la mère de Jean, la superbe Isabelle de Lévis, les considérait tous deux en souriant. C'était un groupe charmant que cette jeune fille, blonde et frêle, couchée dans un large fauteuil d'ébène, où sa robe blanche et souple la dessinait mollement, et ce beau jeune homme, presque à genoux devant une sainte image. Elle, les yeux inclinés sur lui, lui, les yeux levés sur elle, Rasselane, souriante et heureuse d'être aimée, l'écoutant par ce qu'il parlait et non par ce qu'il disait, l'écoutant par sa voix et non par ses paroles. Jean, heureux de la voir et dont le regard pensait plus loin qu'à l'heure présente, car le lendemain il devait se marier, et à côté d'eux, comme un ange gardien, la dame de l'Isle Jourdain, se contemplant dans son ouvrage, car c'était elle dont les soins finissaient par cette union, les vieilles querelles des sires de l'Isle Jourdain et des seigneurs de la Baume. Le jour commençait à baisser. C'est l'heure où les fleurs donnent tout leur parfum, où les fades chaleurs du printemps vibrent à l'horizon en larges et pâles éclairs. C'est le temps où la nature est si abondante en enivrement qu'on se plaît au repos et au silence, de crainte de la troubler. Aussi Jean et Rasselinde étaient-ils devenus silencieux. Jean, la tête appuyée sur les genoux de Rasselinde, elle, la main dans les cheveux de Jean, tous deux ivres de la même âme ainsi que du même air et de la même lumière, tous deux oublieux de toute autre vie que la leur, ne pensant même plus aux dévorantes dévastations de la peste qui depuis quelques mois abattait comme un ardent faucheur les tremblantes populations de la Languedoc. C'était un de ces moments ineffables qui font de la plus folle et de la plus pauvre jeunesse un meilleur temps que de la vieillesse la plus riche et la plus prudente. À ce moment, la porte de la salle gothique s'ouvrit et une femme voilée s'y présenta. Jean se leva vivement et, désagréablement interrompu dans ses longues pensées, demanda rudement à cette inconnue ce qu'elle voulait. Jean de l'Isle Jourdain, lui dit-elle presque solennellement, cette belle enfant n'est-elle pas Rasselin de ta fiancée? À cette voix, la jeune fille tressaillit et d'un œil inquiet parcourut le visage troublé de Jean, prévoyant quelque triste confidence d'un amour délaissé. Elle se prit de peur pour son bonheur et des larmes lui vinrent aux yeux. Jean répondit brièvement: Oui, elle est ma fiancée. Bien, dit la femme voilée avec quelque chose d'un vœu satisfait. Et aussitôt elle retourna vers la porte, et l'ayant fermée soigneusement, revint se placer devant Roselinde. Elle parut la considérer attentivement à travers son voile. Puis, laissant tomber ses paroles une à une, comme si elle réfléchissait tout haut: Bon, certes, elle est plus belle que je n'avais espéré. Mais que vous importe? S'écria l'impatient jeune homme. Oh, ce qu'il m'importe, reprit l'inconnu avec un léger tressaillement, c'est que je suis assuré, en la voyant si belle, que l'amour qu'elle t'inspire n'est pas une de ces affections frivoles qui se brisent sans déchirement. Ce qu'il m'importe, continua cette femme en élevant la voix et en se tournant vers Jean, c'est que ce sera un effroyable supplice pour toi que la pensée de la quitter. La quitter? S'écria violemment le sire de l'île Jourdain. Mais que nous veut cette femme et qui l'a laissée entrer au château? Ce que je te veux, reprit-elle, eh bien, je veux t'avertir d'un danger qui vous menace, toi et ta belle fiancée, d'un projet de vous séparer qui a été conçu par un implacable ennemi. Il n'est pas d'ennemi qui puisse m'atteindre ou que je craigne, répondit fièrement le chevalier, à l'abri de mes remparts et de mon épée. Fût-ce comte de Foix, fût-ce Armagnac, fût-ce le roi de France lui-même. Mais cet ennemi, reprit l'inconnu, n'est cependant qu'une pauvre femme, et malgré tes remparts et ton épée, elle tient dans ses mains sa vengeance, aussi inévitable, aussi sûre que celle de Dieu. En disant ces mots, elle s'avança vers Asseline, et Jean de l'Isle Jourdain se jeta entre elles, la main sur son poignard. Un effroi singulier se glissa dans son cœur. Et bien qu'il ne parût pas raisonnable de craindre une femme seule, et sans doute insensée, cependant un triste pressentiment l'agita, et sa voix tremblait lorsqu'il s'écria: Enfin, qui es-tu? Que me veux-tu? Qui je suis? Répondit-elle gravement. Je suis Diana Malekhi. Et ce que je veux, c'est ta vie. Roselinde, à ces paroles, poussa un cri d'effroi, et Jean, tout à fait rassuré et honteux du mouvement de crainte qui l'avait agité, la mesura avec un sourire dédaigneux. Mais elle, continuant, s'écria avec un amer enthousiasme: Oui, je suis Diana Malekhi, qui s'est traînée à tes genoux en te demandant de lui laisser attendre son fiancé, nue sous la pluie et le vent, nue sur une pierre. Je suis Diana Malekhi, que tu as repoussée du pied. Assez, assez, reprit le sire de l'île Jourdain. Sortez ou je vais vous faire jeter hors de ce château par mes valets. Oh, ils n'oseraient, répondit amèrement Diana. Eh bien, c'est donc moi qui le ferai, s'écria le chevalier. Et aussitôt il s'avança vers Diana, et la saisissant par le bras, il voulut l'entraîner hors de la salle. Mais elle, à son tour, prenant la main de Jean, la serra avec une rage convulsive, et la froissant entre les siennes, sembla s'attacher à lui. Cependant, Jean était prêt de la faire sortir lorsqu'elle s'arrêta soudainement. Eh bien, je sortirai, dit-elle, je sortirai, mais accorde-moi une grâce. Laisse-moi revoir ta fiancée. Pour tout le mal que tu m'as fait, cette dernière faveur, oh, tu peux tenir ma main. Je te jure sur mon âme que je ne l'approcherai pas, seulement que je la voie une dernière fois. Aussitôt, Diana et Jean s'avancèrent vers Aslan, qui s'était réfugiée et tremblante dans les bras de la dame de l'île Jourdain. La jeune fille considérait Diana avec un effroi insurmontable. Jean lui-même lui obéissait par une sorte de repentir vague. À ce moment, et lorsqu'un silence profond s'était établi entre toutes ces personnes, Diana, arrivée en face de Rasselinde, leva son voile et poussant Jean vers la jeune fille, elle lui cria: Rasselinde de la Baume, voici Jean de l'île Jourdain, votre fiancé, que vous présente Diana Maréki. À ces paroles, à ce mouvement, la foudre sembla avoir éclaté sur la tête de ces infortunés. Jean quitta convulsivement la main qu'il tenait. Rasselinde tomba à genoux et la dame de l'île Jourdain resta immobile et glacée. Diana se prit à rire. Eh bien, sire de l'île Jourdain, s'écria-t-elle, où sont tes remparts et ton épée contre la vengeance d'une pauvre femme misérable? Qui me regarde avec des yeux stupides. Oui, c'est vrai, je suis pestiféré. Et tu portes en toi les germes de ta mort. Ah, oh, je vois donc maintenant comme ta fiancée est belle. Ah, non, j'aurais été pas si beau sur mon âme. Rasselin, égaré, voulut se jeter dans les bras de Jean, mais lui, l'évitant avec terreur, s'écria: Oh, ne m'approche pas! Je ne suis plus ton fiancé, va-t'en, va-t'en. C'est mon fiancé à moi, dit Diana en s'élançant vers lui. Regarde, Rosalinde, comme je l'aime. Et aussitôt, s'attachant à lui comme un serpent, elle l'enlaça de ses bras, couvrant son front et ses lèvres de baisers hideux, hurlant comme une hyène qui déchire sa proie. Et pendant cette horrible lutte, ni la mère ni la maîtresse de Jean n'osèrent lui porter secours. Elles le voyaient se débattre sous ces affreux embrassements et ne savaient que pleurer et crier. Des valets accoururent qui, à l'aspect de Diana, restèrent immobiles sur les portes, n'osant pas s'approcher de leur misérable maître. Enfin, Jean termina cet épouvantable combat d'un coup de poignard qu'il adressa droit au cœur de Diana. Pendant la lutte, la dame de l'île Jourdain avait fait vœu d'une lampe au bienheureux Saint-Just si son fils échappait à ce danger. La donation de 6 pièces de vigne faite aux chanoines de l'église pour l'entretien de cette lampe rapporte en effet que Jean fut sauvé par l'intercession de ce saint, mais elle ajoute qu'il perdit l'usage de la main gauche, que Diana lui avait mordu avec fureur. C'est sans doute cette circonstance qui valut à ce seigneur le nom de sire de la main morte, sous lequel il est plusieurs fois désigné dans le récit des guerres des peuples de la Languedoc contre les Anglais.